Leçon 12. Éduquer les enfants dans un but précis. Objectif de la leçon. À la fin de cette leçon, les étudiants doivent être en mesure de 1. Expliquer les responsabilités que Dieu a données aux parents. 2. Comprendre l'importance du développement précoce du caractère. 3. Être équipés pour une planification intentionnelle du développement des enfants dans 9 domaines de la vie. 4. Expliquer l'interaction entre le libre arbitre de l'enfant et les influences extérieures sur l'enfant. 5. S'engager à un discipolat fidèle des enfants. Jonathan Edwards, père d'un héritage familial. Jonathan Edwards était un pasteur et un théologien respecté qui a vécu dans les années 1700. Sa femme Sarah et lui étaient les parents de 11 enfants. Sarah a été une épouse et une mère merveilleuse. Elle exerçait une influence considérable sur la formation du caractère de ses enfants. Jonathan était également un père dévoué. Nous apprenons que, chaque soir, lorsque M. Edwards était à la maison, il passait une heure à converser avec sa famille, puis à élever une prière de bénédiction pour chaque enfant. Cette citation et les informations de cette rubrique proviennent de Larry Ballard, Multigenerational Legacies, The Story of Jonathan Edwards, Famille de ministère GEM, 1er juillet 2017, extrait de iwamfmi.org. A. E. Winship, un éducateur de la fin des années 1800, a effectué des recherches sur l'héritage de Jonathan et Sarah Edwards en retraçant la vie de leurs descendants jusqu'à 150 ans après la mort de Jonathan. Il a constaté que l'héritage de la famille Edwards comprenait un vice-président des États-Unis, un doyen d'une école de droit, un doyen d'une école de médecine, 3 sénateurs américains, 3 gouverneurs, 3 maires, 13 recteurs, 30 juges, 60 médecins, 65 professeurs, 75 officiers des forces armées, 80 titulaires de charges publiques, 100 avocats, 100 pasteurs, dirigeants d'église, 285 diplômés de l'enseignement supérieur. Comment un héritage aussi fructueux est-il possible? Qu'a-t-on investi dans la vie des 11 enfants Edwards pour qu'ils produisent des descendants réputés pour leur intégrité, leur sens des responsabilités, leur leadership et leur service à la société? Jonathan était certainement un père pieux et diligent, un exemple fidèle à suivre pour ses enfants. La Bible nous montre que les choix des parents influencent la relation de leurs enfants avec Dieu sur les générations futures. Lisez Deutéronome 5, 9 à 10 et Deutéronome 7, 9. Peu importe les choix effectués par les parents, chacun dispose de la possibilité de servir l'Éternel et d'être un parent pieux pour ses propres enfants. Vous et vos descendants pouvez servir l'Éternel avec fidélité et recevoir ses bénédictions et sa grâce. Êtes-vous prêt à vous engager à être un parent qui sert Dieu de manière fidèle et amène ses enfants à le connaître aussi? Présenter Dieu à un enfant. Lorsque Dieu s'est adressé à Jacob pour la première fois, il n'a pas affirmé « Je suis le Dieu de l'univers » ou « Je suis le Dieu qui a créé le monde », même comme ses paroles étaient vraies. Il a déclaré « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton ancêtre et le Dieu d'Isaac. » Genèse 28, 13. Jacob n'a pas commencé sa relation avec Dieu sans en avoir une connaissance préalable. Jacob a connu Dieu grâce aux enseignements de son père et de son grand-père. Abraham a instauré une tradition d'adoration de Dieu. Plusieurs autres personnes ont cru en Dieu grâce à Abraham, avant même d'avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Lorsque le serviteur d'Abraham, Éliézer, a prié, il s'est adressé à l'Éternel, le Dieu de son seigneur Abraham, Genèse 24, 12. Par la suite, Dieu a été identifié à de nombreuses reprises comme le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Exode 3, 15, à titre illustratif. Dans la génération suivante, Joseph s'est référé aux promesses que Dieu avait faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Genèse 50, 24. Joseph attendait de sa famille qu'elle soit fidèle à Dieu en raison des promesses faites par Dieu aux générations précédentes. Sujet de réflexion. De la manière dont Dieu s'est identifié, Que pouvons-nous apprendre sur le moyen par lequel les hommes apprennent à connaître Dieu? En général, les hommes n'entrent pas en relation avec Dieu uniquement en entendant des doctrines sur lui. D'ordinaire, les hommes apprennent à connaître Dieu en observant la vie des personnes en relation avec lui. La plus grande influence spirituelle vient des parents dévoués à Dieu. Quelques questions personnelles très importantes à considérer. Qu'est-ce que vos enfants apprennent sur Dieu en observant votre vie? Vos enfants veulent-ils être fidèles à Dieu parce qu'ils voient votre relation avec lui? La responsabilité des parents. Dieu donne une grande responsabilité aux parents. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Proverbe 22, 6. Les parents doivent s'efforcer d'enseigner à leurs enfants à suivre Dieu. Les parents doivent comprendre qu'il leur incombe de guider et de former leurs enfants. La responsabilité de la formation des enfants incombe d'abord aux parents et non à la société, à l'école ou à l'église. Un parent doit s'assurer de la présence de ses enfants à l'église, mais il ne doit pas supposer que l'église formera son enfant à sa place. Lisez Éphésiens 6, 1 à 4. Que doivent faire les pères? L'éducation des enfants ne relève pas seulement de la responsabilité de la mère. La responsabilité ultime de la protection spirituelle de sa famille revient au père. Les parents ont la lourde responsabilité de former leurs enfants à affronter la vie. Être formé pour affronter la vie ne signifie pas être formé pour exercer un métier, mais plutôt pour mener une vie correcte que Dieu bénira. Les parents ne doivent pas laisser leurs enfants mener une vie de péché, dans l'espoir qu'ils se convertiront plus tard. Les Écritures nous mettent en garde contre l'apprentissage des mauvaises conceptions du monde. Lisez Colossiens 2, 8. Ce passage nous avertit que nous pouvons être détournés à travers la croyance à une mauvaise conception du monde et l'acceptation d'un mauvais mode de vie. Le monde peut détourner nos enfants en leur apprenant à suivre les voies du monde au lieu de suivre Christ. Il est préférable que toute l'éducation reçue par les enfants soit assurée par des enseignants et des parents chrétiens. Dans les endroits dépourvus d'écoles chrétiennes, les parents doivent tout de même s'assurer que l'enfant apprend la bonne vision de la vie. L'éducation laïque peut enseigner à l'enfant l'athéisme, l'évolution et l'humanisme. Les enfants sont particulièrement vulnérables aux faux enseignements. Éphésiens 4, 14. Et les parents doivent protéger leurs enfants. Les pasteurs doivent apprendre à prêcher une doctrine qui protège les fidèles contre les mauvaises conceptions du monde. Les pasteurs et les enseignants doivent fournir aux familles des informations qui les aideront à établir leurs enfants dans la vérité. La formation précoce. Les parents doivent savoir que les enfants apprennent la vie et décident de ce qui est important dès leur tendre jeunesse. Le caractère se forme dès le plus jeune âge. L'essentiel du discipolat se déroulera avant que les enfants n'atteignent l'âge de l'adolescence. La plupart des objectifs d'alphabétisation biblique, des objectifs de caractère, des habitudes personnelles, sociales et spirituelles, devraient être développés avant l'adolescence. Avant même d'avoir atteint l'âge de 5 ans, l'enfant a appris les bases de la relation entre les hommes et le type de comportement qui lui permet d'obtenir les résultats souhaités. Il sait s'il doit s'attendre ou non à l'équité et si les punitions et les récompenses sont adéquates. Il sait s'il est aimé. Il sait si ses sentiments comptent pour les autres. Il sait s'il peut être pardonné lorsqu'il agit mal. Il a appris à admettre ou à cacher ses erreurs et ses péchés. Il a décidé si la confiance peut être accordée aux personnes en position d'autorité pour se soucier de lui et tenir leurs promesses. Les enfants apprennent des paroles et des exemples de leurs parents, même lorsque ceux-ci n'essaient pas de les enseigner. Éphésiens 5, 1. Les exemples des adultes donnent aux enfants leur conception de la vie. Les enfants apprennent ce qui est important en voyant ce qui est important pour les adultes. En observant les adultes, les enfants apprennent à traiter les autres, à réagir aux situations et à s'acquitter de leurs responsabilités. Cette éducation commence dès la naissance de l'enfant. Les parents pensent parfois enseigner uniquement lorsqu'ils expliquent à un enfant une tâche à accomplir. Cependant, un parent enseigne également chaque fois qu'un enfant l'observe. Un enfant observe les adultes et apprend comment réagir au stress. Il apprend à traiter les étrangers. Il apprend à traiter les personnes de statut inférieur. Il apprend à répondre aux critiques. Il apprend à répondre aux besoins des autres. Les parents sont toujours en train d'enseigner, même s'ils ne le savent pas. Quand on critique constamment l'enfant, il apprend à cacher ses erreurs, à trouver des excuses et à rejeter la faute sur les autres. À l'âge adulte, il sera condamnable, hypocrite et cachotier. En cas de conflit constant à la maison, il deviendra timide ou agressif. Si les membres de sa famille le ridiculisent, il risque de se retirer de toute interaction avec les personnes ou de devenir un tyran pour les autres. Si ses parents lui font toujours honte, il apprendra à vivre dans la culpabilité, sans jamais se sentir accepté par Dieu. S'il ne peut jamais satisfaire aux normes de comportement exigées par ses parents, il finira par se rebeller et rejoindra peut-être un groupe d'autres rebelles qui remplacera sa famille. Si ses semblables sont patients avec lui, il apprendra à être patient avec les autres. Si les hommes l'encouragent, il aura confiance en lui pour essayer. S'il est félicité, il se sentira utile et prêt à reconnaître les mérites des autres. S'il voit la justice, il voudra être juste. Si un parent enfreint les règles, mais oblige son enfant à les obéir, l'enfant pensera qu'un jour il sera assez grand pour les enfreindre lui aussi. Si le parent n'est pas gentil avec les autres, l'enfant voudra devenir assez fort pour ne pas manifester la gentillesse envers les autres. Si le parent considère les problèmes et les besoins de l'enfant comme insignifiants, l'enfant pensera qu'un jour, il deviendra un adulte capable de s'occuper de lui-même et d'ignorer les besoins des autres. Les parents doivent constamment faire preuve de soumission à Dieu. Les enfants doivent savoir que leurs parents obéissent à la parole de Dieu. Si un parent place sa volonté au-dessus de l'autorité de Dieu, ses enfants s'attendront à vivre de la même manière. Un parent devrait souvent expliquer à ses enfants les raisons d'une décision et les facteurs pris en compte. Un tel comportement apprend la prise de décision à l'enfant. Les enfants apprennent lorsque les parents jouent avec eux. Ils doivent apprendre la justice, la considération et la sensibilité aux autres. Les jeux développent les compétences de l'enfant. Les jeux familiaux ont pour but l'apprentissage, le développement personnel et le plaisir des relations avec les membres de la famille. La compétition dans un jeu familial constitue une bonne chose, mais elle ne doit pas avoir pour but de dominer les autres et permettre aux gagnants de jouir d'un sentiment de supériorité. Une question à se poser pendant un jeu: tout le monde prend-il plaisir à jouer? Si seul le gagnant prend plaisir à jouer, alors l'objectif poursuivi n'est pas le bon. Si les gens se mettent en colère ou sont frustrés pendant le jeu, dans ce cas, ce jeu ne sert pas le bon objectif. Les parents mettent en avant la valeur de leur enfant lorsqu'ils prennent le temps de s'occuper de ses activités. Les parents doivent aider leur enfant dans ses projets scolaires, fabriquer ou réparer ses jouets, lui laisser un espace personnel à la maison, écouter ses histoires et ses blagues, et le réconforter lorsqu'il est contrarié. Les parents doivent connaître les enseignants de leur enfant. Ils doivent assister à toutes les réunions prévues avec les enseignants pour connaître la situation scolaire de leur enfant. Dans la mesure du possible, les deux parents doivent y assister. Si le père n'y va pas, il semble reléguer son enfant au second plan. Les parents doivent poser des questions aux enseignants sur les notes et sur les activités de l'école. Les enseignants sont plus enclins à faire de leur mieux pour un enfant et à le protéger contre les mauvais traitements s'ils savent l'intérêt porté par les parents. Les personnes qui vivent ensemble comme une famille se connaissent très bien. Elles apprennent à connaître les besoins et les défauts des uns et des autres. Elles peuvent s'aimer et démontrer cet amour plus qu'elles ne peuvent aimer n'importe qui d'autre dans le monde. Si elles ne s'aiment pas, elles peuvent se faire du mal plus que n'importe qui d'autre. Certaines personnes traitent les membres de leur famille plus mal qu'elles ne traitent les étrangers. Un foyer chrétien doit être un lieu caractérisé par la patience, le pardon, l'attention et la gentillesse. Le travail des enfants. Un jeune enfant a besoin de temps pour jouer et se divertir tous les jours. Il a besoin de se détendre, d'utiliser son imagination, de lire des livres, de s'amuser à fabriquer ou à construire quelque chose et d'apprécier les environnements naturels. Dans un contexte où les familles le travaillent ensemble tous les jours pour produire de la nourriture ou effectuent d'autres tâches, la participation des enfants au travail de la famille constituerait un atout, mais les parents ne doivent pas oublier d'autres valeurs. Les longues heures de travail sont difficiles pour un enfant, non seulement en raison des exigences physiques, mais aussi parce que le travail qui lui est confié est généralement répétitif et monotone. Il souhaite avoir du temps pour des activités qui font appel à son imagination. Il est triste qu'un enfant doive travailler au point de ne disposer que de temps libre pour manger et dormir, afin de pouvoir travailler à nouveau. Certaines familles rencontrent des difficultés économiques et pensent se tourner vers le revenu issu du travail de leurs enfants. Cependant, si ces familles n'éduquent pas leurs enfants, la situation de leur famille risque de ne jamais changer. Si un enfant travaille au lieu d'aller à l'école, il passera probablement sa vie à travailler pour un bas salaire. La plupart des carrières et des offres d'affaires ne lui seront pas accessibles. Certaines personnes assurent l'éducation de leurs propres enfants, mais sont prêtes à profiter indûment des enfants de familles pauvres en les employant pendant de longues heures dans les champs ou à des travaux ménagers ou à la vente dans la rue, tout en sachant qu'ils ne sont pas éduqués. Les chrétiens devraient travailler ensemble pour trouver de meilleures solutions pour les familles de leur communauté. Les enfants peuvent aimer le travail s'ils effectuent des tâches qui leur procurent un sentiment d'accomplissement. Ils peuvent également aimer travailler avec leurs parents si ceux-ci les encouragent. Les parents doivent être raisonnables dans leurs attentes à l'égard de ce qu'un enfant peut faire et doivent donner un retour constructif de manière positive qui motivera leurs enfants à persévérer dans l'apprentissage et à se développer. Les enfants doivent endosser des responsabilités quotidiennes pour leur apprendre à être fiables et minutieux. Les parents doivent affirmer verbalement les qualités de caractère qu'ils décèlent chez leur enfant lorsqu'ils travaillent, telles que l'initiative, la diligence, l'attention et la persévérance. Les parents doivent enseigner à leurs enfants les principes de travail énoncés dans la parole de Dieu. Les enfants doivent jouir de la possibilité de gagner de l'argent qu'ils peuvent choisir de dépenser. Ils apprennent la valeur de leur travail et la manière d'utiliser leur argent au mieux. Un enfant qui travaille pour gagner de l'argent peut se rendre compte qu'il ne doit pas tout dépenser pour des bonbons. Il peut acheter quelque chose qu'il pourra garder. Les parents doivent apprendre à leurs enfants à penser à l'argent et à l'utiliser de manière pieuse. Les enfants et les adolescents doivent être initiés à des variétés de travail qui développent leurs capacités. Un jeune doit bénéficier de l'occasion de travailler avec des personnes aux compétences diverses afin d'apprendre. Le développement de l'enfant dans un but précis. Les parents sont responsables du développement du caractère de leurs enfants. Un couple chrétien, Matt et Mary Friedman, a dressé la liste des qualités qu'ils voulaient aider ses enfants à développer. Après avoir dressé cette liste, ils l'ont examinée et ont élaboré des plans d'action pour aider leurs enfants à développer chacune de ces qualités. Le processus ne sera pas rapide. Ces qualités n'apparaissent pas de manière soudaine. Les parents doivent faire preuve de détermination et de constance tout au long des années où ils élèvent leurs enfants. La liste ci-dessous contient certaines des qualités énumérées par la famille Friedman. Matt Friedman, Discipleship in the Home, Wilmore, Francis Asbury Society, 2010, pages 31 à 33. D'autres qualités ont été ajoutées à la liste. Qualité à posséder à l'âge de 18 ans. Spiritualité. Savoir qu'ils sont porteurs de l'image de Dieu et qu'ils ont une valeur éternelle. Savoir qu'ils sont des pécheurs ayant besoin d'un sauveur. S'engager à suivre Christ. Avoir une vie de dévotion quotidienne. Manifester les dons spirituels. Se préparer au service chrétien. Demeurer sexuellement pur jusqu'au mariage. Connaissance de la Bible. Comprendre les doctrines chrétiennes fondamentales. Avoir mémorisé les versets bibliques principaux. 300 versets. Connaître les histoires de la Bible. Connaître les livres de la Bible. Connaître les 10 commandements et le sermon sur la montagne. Voir les thèmes évangéliques du péché et du salut dans l'ensemble de la Bible. Vision biblique du monde. Savoir défendre sa foi. Être capable de répondre aux grandes questions de la vie dans une perspective biblique. Comprendre ce qui rend la foi chrétienne unique parmi les religions et les cultes du monde. Intellect, éducation. Avoir reçu une éducation chrétienne si possible. Être établi dans la discipline de la lecture ou de l'écoute de podcasts ou de vidéos instructives. Suivre une formation universitaire ou professionnelle en fonction de vos dons et de votre vocation. Caractère. Pratiquer la maîtrise de soi. Faire preuve d'humilité. Être capable de demander les excuses. Éprouver du respect envers l'autorité. Parler avec gentillesse. Apprendre à utiliser le temps à bon escient. se discipliner dans l'utilisation des réseaux sociaux, le divertissement, etc. Argent et services. Comprendre l'intérêt de Dieu pour les pauvres. Pratiquer la générosité et servir les pauvres. Pratiquer la dîme et l'épargne. Apprendre à utiliser un budget financier. Relations. Aimer et s'entendre avec ses frères et sœurs. Faire preuve de courtoisie en société. Apprendre à être un ami loyal. Être capable de parler aux adultes avec respect et avec confiance. Santé. Pratiquer une bonne hygiène. Faire de l'exercice régulièrement. Manger tous les repas servis. Choisir des aliments sains, dans la mesure du possible. Compétences. Développer les dons que Dieu vous a donnés. Développer vos compétences par la discipline d'une pratique régulière. Matt Friedman a décrit ce que sa femme et lui ont fait après avoir dressé la liste de ses qualités. Après avoir inscrit les qualités ci-dessus sur une seule feuille de papier, nous avons tracé une ligne au milieu de la feuille et nous nous sommes demandé « Maintenant, que devons-nous faire pour développer ces qualités chez nos enfants ?» Sur le côté gauche de la feuille, nous avons noté nos responsabilités parentales. Matt Friedman, Discipleship in the Home, Will Moore, Francis Asbury Society, 2010, page 33. Si cette liste vous semble une lourde responsabilité, rappelez-vous que Dieu nous a donné 16 à 18 ans pour faire de nos enfants des disciples. Il est important de 1. Mettre en œuvre un plan de discipola. 2. Établir des rituels familiaux, tels qu'un repas quotidien et quelques minutes d'enseignement ou de formation structurée. 3. Faire du discipola une partie naturelle de la vie quotidienne en utilisant les nombreuses occasions d'enseigner et de former. 4. Déclarer continuellement la parole de Dieu sur vos enfants. 5. Ne jamais abandonner, même en cas d'échec. Le facteur de la volonté humaine. Sujet de réflexion. Une personne affirme parfois « Mes expériences ont bâti la personne que je suis ». Une affirmation similaire. L'homme est le produit de son milieu. Ces affirmations sont-elles vraies? Les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. Les hommes font de vrais choix et ne sont pas contrôlés par l'instinct ou l'environnement. Tout au long des Écritures, Dieu appelle les hommes à choisir le bien et à rejeter le mal. Josué 24, 14 à 15, Ézéchiel 33, 10 à 11, Apocalypse 22, 17. Dieu juge les hommes à cause de leurs décisions. Notre environnement et nos expériences nous influencent, mais ils ne nous contrôlent pas, car étant des êtres humains à l'image de Dieu, nous effectuons de vrais choix. Ainsi, un enfant pourrait opérer des choix opposés au foyer et à l'environnement où il a été élevé. Un enfant issu d'un foyer païen où il était normal de vivre dans le péché peut se repentir et vivre pour Dieu. Un enfant issu d'un foyer chrétien peut choisir de ne pas suivre Dieu. Bien que les hommes fassent de vrais choix, ils ne sont pas complètement libres. La Bible nous révèle que nous sommes nés avec une nature à tendance pécheresse. Psaume 51, 5, Psaume 58, 3. Les humains ont une propension naturelle à résister à l'autorité, à choisir leur propre direction, à céder à la tentation, à tromper les autres et à être égoïste. Éphésiens 2, 1 à 3. Les enfants ne sont pas neutres, attendant d'être guidés dans n'importe quelle direction. Ils cherchent rapidement des moyens de satisfaire leurs propres désirs, quitte à mentir et à désobéir pour obtenir ce qu'ils veulent. En outre, nous savons que Satan essaie de les tromper et de les tenter. Éphésiens 2, 2, Apocalypse 12, 9. Les parents doivent se rendre compte que l'instruction seule ne suffit pas pour amener l'enfant à bien agir. Une lutte spirituelle est nécessaire. Galates 5, 17. Les parents doivent prier afin que l'Esprit de Dieu influence et conduise l'enfant. Les parents doivent s'en remettre à Dieu pour recevoir la sagesse et la force d'être de bons exemples spirituels. Les parents doivent prier avec ferveur pour que leur enfant se repente et expérimente une renaissance spirituelle à un jeune âge. Même si l'enfant est converti, le parent ne doit pas s'attendre à ce qu'il se comporte comme un chrétien mature. Ses attitudes et ses sentiments manqueront de cohérence. Il peut parfois céder à la tentation. Tant que l'enfant montre le désir de bien agir, le parent ne doit pas le décourager en lui déclarant qu'il ne vit pas comme un chrétien. Au contraire, le parent doit féliciter l'enfant pour ses bons comportements et l'encourager à prier pour que Dieu l'aide dans ses luttes. Bien que chaque être humain naisse avec la propension au péché, chaque être humain a également besoin de Dieu. Le Saint-Esprit parle à chaque personne et lui donne le désir d'être en relation avec Dieu. Nous savons que Dieu nous aide lorsque nous enseignons sa parole à nos enfants. L'Esprit de Dieu est comme un avocat à l'intérieur de l'enfant. Il confirme la vérité et lui donne le désir d'être en relation avec Dieu. Le temps de dévotion en famille. Les familles doivent se réunir chaque jour pour quelques minutes de lecture de la Bible, de discussion et de prière. Les deux parents et tous les enfants de la famille doivent y participer. Le père doit diriger la réunion, mais il peut demander aux membres de la famille de lire les Écritures et de participer de diverses manières. Le temps de dévotion ne doit pas toujours suivre le même modèle. Il peut se dérouler de diverses manières et inclure récits bibliques, récits de l'histoire chrétienne et des missions, discussions sur des questions, utilisation de questions et de réponses mémorisées pour enseigner des vérités doctrinales, lecture de documents chrétiens, chants, mémorisation de la Bible, pièces de théâtre et diverses façons de prier. Exemple d'activité de temps de dévotion. Choisir une histoire biblique et la faire jouer par les membres de la famille. Les pasteurs doivent consacrer du temps à enseigner à leur église le sens du temps de dévotion en famille. Les parents doivent se rappeler que Dieu leur a confié la responsabilité d'enseigner la parole de Dieu à leurs enfants. Deutéronome 6, 5 à 7. Prière. Père Céleste, merci d'avoir conçu la famille et d'avoir donné aux humains le grand privilège d'être parents. Aide-nous à aimer nos enfants comme tu les aimes. Aide-nous à toujours nous rappeler qu'ils ont été créés pour te connaître et te servir. Donne-nous l'amour, la patience et la compréhension nécessaires pour former et influencer les enfants à te suivre. Donne aux chrétiens de nos églises d'équiper les familles, les jeunes et les enfants pour qu'ils soient fervents dans la foi et l'obéissance. Amen. Pour qu'ils soient fervents dans la foi et l'obéissance. Amen.